SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme. Nous aurons de la musique, des reportages, des interviews et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine. Vous l'aurez compris aujourd'hui, donc nous sommes le 7 avril et il y a 30 ans, 1994, le 7 avril débutait le génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis. Cette émission sera un petit peu particulière, elle sera dédiée beaucoup à ce sujet aujourd'hui.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Cette semaine, nous partons au Rwanda, un petit pays d'Afrique de l'Ouest rendu tristement célèbre par le génocide qui l'a frappé en 1994. Alors que la communauté internationale commémore les 30 ans de cette tragédie, nous revenons sur le profil de Paul Kagame, son président, chef de guerre et artisan de la réconciliation, un homme déterminé qui suscite autant l'admiration que la crainte.
Bonjour, bonjour à tous. Nous commémorons aujourd'hui les 30 ans du génocide rwandais qui a provoqué quelque 800 000 morts, majoritairement tutsis, en 3 mois. C'est un triste anniversaire qui est aussi l'occasion d'évoquer l'homme fort du pays, Paul Kagame, désigné président en 2000 par le Parlement. Il est reconduit à ce poste lors des élections de 2003. Il remporte ensuite celles de 2010 et 2017 avec plus de 90% des voix. Le 15 juillet prochain, il sera de nouveau candidat à sa propre succession pour le compte de son parti, le FPR, Front Patriotique Rwandais. S'il est élu, ce sera son 4e mandat, sachant que la Constitution l'autorise à se présenter jusqu'en 2034.
Alors, président depuis 24 ans, il est en fait aux commandes depuis bien plus longtemps.
Oui, il est incontournable depuis la fin du génocide en 1994 et il est donc au pouvoir depuis près de 30 ans. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Paul Kagame est issu d'une famille royale rwandaise qui a fui son pays pour l'Ouganda en 1961. Paul Kagame a alors 4 ans. Il grandit dans un camp en Ouganda et à 22 ans, il rejoint les combattants de Yoweri Museveni qui luttent contre le dictateur Idi Amin Dada. Le mouvement qui devient l'armée nationale de résistance, NRA, est soutenu par les États-Unis. Lorsque Yoweri Museveni réussit à prendre le pouvoir et devient président, Paul Kagame est nommé chef des services de renseignement militaire ougandais. Austère, secret, discipliné et aussi sans pitié, il parfait sa formation aux États-Unis. En 1987, il cofonde le Front Patriotique Rwandais, lequel se dote d'une branche armée, l'APR, Armée Patriotique Rwandaise, qui tente dès 1990 de reprendre le pouvoir au Rwanda. C'est le début de la guerre civile qui s'achève en 1993 avec les accords d'Arusha. En 1994, finalement, après l'attentat contre le président Juvénal Habyarimana qui marque le début du génocide contre les Tutsis, le FPR prend les armes contre les forces armées rwandaises et bien qu'en son ombre, rétablit l'ordre dans le pays. Le pasteur Bizimungu devient président à la tête d'un gouvernement d'unité nationale, tandis que Paul Kagame cumule les fonctions de vice-président et ministre de la Défense, au dire de tous, à cette époque, déjà, c'est lui l'homme fort du pays.
Si le Rwanda a réussi à se reconstruire, c'est surtout grâce à lui.
Oui, on lui reconnaît une réussite économique incontestable et assez miraculeuse, avec la plus forte croissance des communautés d'Afrique de l'Ouest entre 2010 et 2017, soit 7,9% par an en moyenne, et aussi la plus faible corruption d'après l'ONG Transparency International. La pauvreté a diminué et la durée de vie s'est allongée. Paul Kagame se targue aussi d'avoir fait abolir la peine de mort, y compris pour les génocidaires en 2007, et libérer de nombreux génocidaires dans le cadre d'un programme de réconciliation. Le pays a également fait avancer les droits des femmes. Leur taux d'alphabétisation, de scolarisation ont augmenté de façon significative et elles ont un taux d'activité supérieur même à celui des hommes, même si leur emploi est souvent moins bien payé ou qualifié. Cas unique au monde, elles sont aussi majoritaires au Parlement et même au gouvernement.
Mais comme toujours, tout n'est pas complètement rose, n'est-ce pas ?
Évidemment. Avec ses voisins, il entretient des relations tendues. En 1997, il a été accusé d'incursion et d'ingérence au Zaïre voisin, où s'étaient réfugiés de nombreux Hutus. Il participe ainsi au renversement du président Mobutu. Aujourd'hui, un rapport de l'ONU confirme que le Rwanda soutient le M13, mouvement de rébellion congolaise actif en RDC, République démocratique du Congo, et auteur de nombreuses atrocités. En interne, Paul Kagame domine la vie politique de son pays depuis des décennies, n'hésitant pas à éliminer ou à emprisonner ses opposants et critiques, y compris l'ancien président Bizimungu. Dans son rapport 2022, Amnesty International notait, je cite, « Cette année encore, les autorités ont harcelé, intimidé, persécuté et détenu illégalement des journalistes et des blogueurs et blogueuses. Les pouvoirs publics n'ont pas révélé ce qu'il était advenu d'Innocent Bahati, ni où il se trouvait. » Innocent Bahati, c'est un écrivain et poète dont les critiques envers le régime ont sans doute provoqué la disparition. Malgré tout, Kagame, parce qu'il participe à la lutte contre les islamistes, notamment au Mozambique, et que son pays reste un îlot de stabilité dans la région, continue à bénéficier du soutien des Occidentaux, dont les Américains et les Britanniques.
Et avec la France, comment ça se passe ? Je crois que cette année, Emmanuel Macron ne devrait pas se rendre à Kigali pour les commémorations.
Oui, absolument, mais une délégation ministérielle doit faire le déplacement. Et cela s'explique par 30 ans de relations compliquées entre les deux pays, la France étant accusée d'avoir soutenu le régime génocidaire, alors que des proches de Kagame sont mis en cause dans l'attentat qui a tout déclenché. Alors, des plaintes et des commissions d'enquête ont été lancées des deux côtés. Finalement, ce n'est que récemment que les relations se sont apaisées, notamment avec la publication du rapport Duclerc en 2021 et rédigé à partir des archives françaises ouvertes et ayant trait au Rwanda.
Et nos conclusions, c'est bien de constater des responsabilités lourdes, accablantes de la France dans le processus qui a mené au génocide des Tutsis. Ça, ces constats sont terribles pour la France, mais en même temps permettent aussi de sortir dans l'honneur, au fond, et donc d'avoir, aussi une réponse de la France qui soit celle de la vérité, qui soit celle de la responsabilité.
Enfin, après 6 ans de vacances, la France a rétabli sa présence diplomatique au Rwanda en nommant Antoine Anfray ambassadeur en 2021. Ce dernier avait, dès 1991, alerté l'Élysée des risques de dérives violentes au Rwanda. Et à ce titre, il est considéré comme un lanceur d'alerte. Le choix de cet homme est éminemment symbolique. Maintenant, reste à voir comment tout cela va évoluer.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et c'était Kayate de Kan Kellen qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'avril. Allez, on fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Deuxième partie de l'entretien que j'ai pu avoir avec Vincent Duclerc. C'est un historien français, président de la commission des historiens sur le Rwanda. Il nous présente sa vision des éléments du génocide des Tutsis, dont je vous rappelle, nous commémorons le 30e anniversaire aujourd'hui.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Ce qui est intéressant, c'est que la France aura mis 30 ans, mais au sein du pays, au Rwanda, on a mis presque 10 ans. La phase, c'était 2004, quand il y a eu la création de ces tribunaux locaux, aussi des tribunaux, entre guillemets, populaires, où le peuple rwandais en lui-même et les autorités à l'époque ont décidé, sans dire qu'on a décidé de tirer un trait, on a regardé vers l'avenir et cette période de réconciliation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la réconciliation au Rwanda, presque comme un modèle. On met ça en avant énormément aujourd'hui dans ces commémorations autour des 30 ans. C'est quoi votre vision là-dessus, sur l'état du pays aujourd'hui? On sait qu'il y a des zones qui ont été créées, les génocidaires avec les familles affectées. Il y a plein de... On fait la focale aujourd'hui sur plein d'histoires comme ça. Qu'est-ce qu'il en est vraiment dans le pays aujourd'hui?
Moi, je connais bien le pays parce que j'ai connu le pays au moment où, je débutais pour Emmanuel Macron, donc ce travail historique avec une commission de chercheurs, hein, et puis à la remise du rapport, nous avons décidé, donc, les chercheurs que j'avais réunis, d'aller au Rwanda pour travailler avec les collègues de l'Université du Rwanda, on a monté deux sessions de colloques, on a réalisé des ouvrages collectifs, vous voyez, donc l'idée c'est déjà, de partager l'écriture d'une histoire commune, et c'est en cours, et donc c'est très important parce que, c'est à part égale, hein, on n'est pas là effectivement à expliquer que les Blancs vont expliquer aux Noirs leur histoire, hein, c'est vraiment... un travail commun, et c'est très important, et ça change beaucoup quand même, de la manière dont le monde occidental regarde l'Afrique. C'est le Rwanda donne, aussi des leçons, au monde, et il faut le considérer, parce que moi, je serais assez positif, si vous voulez, sur le rôle du Rwanda, non pas que j'ai des intérêts au Rwanda, hein, moi je suis absolument indépendant, mais je vois quand même qu'on a affaire à un petit pays qui a peu de ressources, hein. Qui, en 1994, en août 94, il faut imaginer le Rwanda. On voit des photos. C'est, un champ de mort. C'est absolument terrifiant. Vous avez effectivement des traumatismes inouïs, en plus des morts dans la minorité Tutsi. Et puis, vous avez au moins 2 millions de Hutus qui se sont transformés en tueurs impitoyables. Et comment on fait?
On parle de gens de même famille, on parle des voisins, et aujourd'hui, ces gens ont encore à vivre avec les survivants.
Oui, c'est ça, oui. Mais il faut considérer aussi que le Rwanda n'est pas invité au fameux sommet franco-africain de François Mitterrand à Biarritz, que, les États-Unis n'aident pas véritablement aussi le Rwanda, dont on disait qu'il était proche des pays anglo-américains. Donc, le Rwanda va agir, hein, avec ses quelques forces, et vraiment, le Rwanda va faire confiance à la justice. Il y a une démarche, effectivement, d'organiser la justice et le jugement des présumés coupables, des présumés tueurs, présumé assassin, donc à travers d'abord des tribunaux ordinaires, hein, des cours d'assises classiques, hein, des tribunaux pénaux, et puis après, vu l'ampleur, parce qu'effectivement, on parlait du génocide des voisins, c'est au moins 2 millions de Hutus qui se sont précipités sur les Tutsis. Donc, si on veut empêcher que se poursuive un génocide, il faut, agir en justice. Sinon, c'est l'impunité et c'est la poursuite. Donc, comment faire? Ils sont passés par ces tribunaux mieux qualifiés de traditionnels, donc ces assemblées chargées effectivement de régler les litiges au niveau des collines entre éleveurs par exemple et agriculteurs, et ils les ont transformés en juridiction pénale pour trois catégories de crimes. Hein, la dernière catégorie, la plus grave, elle est réservée aux tribunaux ordinaires et aux TPIR, hein, mais trois catégories sont jugées, il y aura quand même 2 millions de prévenus, 12 000 tribunaux, 60% de condamnations, avec des condamnations de 15 à 20 ans. Alors, c'est sûr que le bilan n'est pas facile, parce que les rescapés Tutsis sont peu nombreux, ils sont traumatisés, ils ont du mal à expliquer au fond ce qui s'est passé, comment leur famille est morte. Il faut comprendre le traumatisme qui pèse aussi, ne serait-ce que sur la parole. Et puis, ils sont entourés de tueurs, quoi. Tueurs qui sont un peu, qui pour certains comprennent la gravité de leurs actes, mais pour beaucoup, évidemment, sont un peu désinvoltes ou laissent entendre quand même que finalement, ils pourraient recommencer. Hein. Mais le Rwanda n'a pas le choix, si vous voulez. Hein. Il a fait le pari de la justice, donc il n'a pas fait le pari de la vengeance. C'est très important, ça aussi, il faut le souligner. Hein. C'est-à-dire, vu le caractère effroyable des massacres, on aurait pu, effectivement, légitimement, bon, même si ce n'est pas effectivement recommandé, mais qu'il y ait vraiment des représailles massives. Ça n'a pas été le cas. Hein. Donc le Rwanda est un pays, le Rwanda d'après le génocide, un pays, je veux dire, qui a donné des leçons, justement, quand même, à la communauté internationale. Moi, je serais assez favorable, quand même, si vous voulez. Et encore une fois, je n'ai aucun intérêt au Rwanda, mais j'observe par comparaison aussi la manière dont le Rwanda agit. Et donc, ils ont fait ce pari de la justice. Ce qui, là, je pense, aussi change, et c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître à Emmanuel Macron, hein, et qui, quand même, doit être porté à son crédit, c'est que, en reconnaissant, donc, puisque Emmanuel Macron va donc le 27 mai 2021 aller à Kigali pour porter les conclusions du rapport que je lui ai remis avec ma commission le 26 mars 2021, donc deux mois auparavant. Et donc, il porte les conclusions sur la responsabilité lourde et accablante des autorités françaises dans le génocide. Donc, non seulement il reconnaît ses responsabilités et le rôle de la France dans le génocide, mais en plus, il reconnaît le génocide. Et donc, l'impunité quand même dont bénéficiaient beaucoup de tueurs parce qu'ils savaient que finalement ils avaient un pays asile qui ne reconnaissait pas le génocide et qui était plutôt pro-Hutu, hein, d'où l'importance des génocidaires qui sont réfugiés en France. Hein. Eh bien, ça c'est terminé. C'est-à-dire maintenant, les génocidaires qui sont réfugiés en France, eh bien, ils rasent les murs et ils sont inquiets parce que, eh bien, vous avez l'office central de gendarmerie du parquet de Paris qui mène des enquêtes. Le financier du génocide, Félicien Kabouga, a été arrêté et ça continue. Les procès en France, par application de la Convention universelle, se multiplient. Hein, et je veux dire, les procès sont systématiques maintenant. Donc, ça aide le Rwanda quand même à affirmer la voie de la justice avec aussi, c'est vrai, vous avez raison, le fait que dans les collines, bah, vous avez des rescapés qui vivent au milieu de tueurs, qui ont massacré leurs enfants, qui les ont pillés. Et c'est vrai que, à moins effectivement de maintenir 2 millions de personnes à vie dans les prisons, hein, parce que la peine de mort a été abolie, hein, il faut aussi le rappeler, eh bien, voilà, il faut vivre avec. Et ce qui est intéressant au Rwanda, et là aussi, c'est un point, je trouve, positif, à souligner, hein, eh bien, c'est le pari sur la jeunesse. Hein, la moitié de la population du Rwanda n'a pas connu le génocide. Et là, il y a tout un travail, notamment pour expliquer que Tutsi ou Hutu, bah, ça a été le moteur du génocide. Donc, voilà, qu'aujourd'hui, il y a, au fond, une seule nation qui est la nation rwandaise.
Voilà, c'est très important parce que ces ethnies ont été abolies. Avant, c'était marqué par, ne serait-ce que sur leur carte d'identité. Quand on était rwandais, on avait l'ethnie qui était inscrite sur la carte d'identité. Maintenant, tout ça, c'est aboli. Le Rwanda d'aujourd'hui, avec un homme fort, hein, faut le nommer, Paul Kagame, et son rôle, alors on parle beaucoup de la réconciliation, de la paix, il y a quand même peut-être aussi un peu des zones d'ombre sur ce qui se passe au Congo, les réfugiés, peut-être le financement de certaines personnes là-bas. Est-ce qu'il y a aussi un risque que tout cela puisse recommencer parce que il y a quand même un fil qui est encore un peu vivant malgré tous les efforts?
Oui, alors déjà, bon, Paul Kagame, homme fort, c'est vrai, mais je veux dire, ça n'a rien de comparable avec le nombre de dictatures en Afrique. Hein. Bon, c'est effectivement... C'est un pouvoir fort aussi parce que je veux dire, par exemple, lorsqu'il y a des oppositions à Paul Kagame, très vite, je veux dire, ça prend l'aspect, je veux dire, au fond, d'une haine contre le Tutsi. Donc, c'est quand même le Rwanda est, je veux dire, un pays qui se développe très bien, mais qui reste aussi très fragile sur ce point, je veux dire, des menaces, en fait, contre la minorité Tutsi, mais il faut bien, je veux dire, aussi faire la conciliation. Et justement, si on parle du Rwanda et du Congo, c'est une raison aussi. Et là, je crois que il y a quand même de la part de la RDC, du Congo, je veux dire, une vaste opération pour désigner le Rwanda et Paul Kagame comme le grand prédateur qui serait responsable de tous les malheurs du Congo. C'est beaucoup plus compliqué, hein. Il faut revenir à l'histoire. ce qui va se passer, c'est encore une responsabilité de la France, et que on le dira, on le redira, parce que l'honneur, je veux dire, de la France, hein, d'être français, bah, c'est de dire la vérité. Voilà, c'est comme ça qu'on se définit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me définis. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'opération turquoise que la France donc envoie, pas pour arrêter le génocide, hein, pour arrêter les massacres. C'est l'idée quand même qu'en gros, les Tutsis massacrent les Hutus pendant que les Hutus massacrent les Tutsis. C'est totalement faux. Il y a un génocide contre les Tutsis, il n'y a absolument pas, je veux dire, de lutte armée, de Tutsis armés donc au Rwanda. C'est faux, les pauvres Tutsis, je veux dire, ils tentent d'échapper aux tueurs. Bon. Donc, la France envoie une grosse opération pour arrêter les massacres et pas le génocide, et puis surtout de la part de François Mitterrand, hein, qui donne des ordres, c'est, je veux dire, de donner un coup d'arrêt au front patriotique rwandais qui aussi arrête le génocide militairement. Bon. Et en fait, comme la France est quand même très proche, parce qu'elle a soutenu ce régime, bah, finalement, des Hutus extrémistes, elle va les laisser passer au Congo. C'est-à-dire qu'elle ne va pas les arrêter. C'est-à-dire les forces armées rwandaises, la garde présidentielle, les milices, tous ceux qui ont fait le génocide, et fait le génocide au plus haut niveau. Hein. Eh bien,
on parle du niveau militaire, là.
Oui, on parle du niveau militaire, mais un génocide, c'est un groupe de, c'est un immense groupe de tueurs. Et donc, est dirigé par des, je veux dire, les voisins, ils sont quand même dirigés par, bah, les maires, les préfets, les forces armées rwandaises, la gendarmerie, la garde présidentielle, tout ça. Bon, tous ces gens-là, ils se retrouvent dans la zone turquoise parce qu'ils se disent, tiens, la France va nous protéger, comme elle nous a toujours protégés. Bon. C'est vrai que là, il y a des instructions quand même, notamment du gouvernement d'Edouard Balladur, pour dire, bon, bah, maintenant, il faut peut-être les désarmer. Alors, on les désarme, mais il y a d'autres instructions qui semblent dire que non, il faut quand même leur laisser leurs armes et tout, et puis on ne les arrête pas. On était en situation de les arrêter parce que l'opération turquoise, c'est le 22 juin 1994, et la résolution des Nations Unies sur les actes de génocide, c'est le 8 juin. Donc déjà, il y a un cadre. Quand on dit acte de génocide, on est déjà dans des procès possibles, vous comprenez ? Et il y avait une possibilité de les arrêter préventivement. La France ne le fait pas. Il y a des ordres de l'Élysée pour dire hors de question de les arrêter. Donc tous ces gens-là, ces tueurs, hein, eh ben, ils passent au Congo, ils passent au Kivu. Au Kivu, où il y a effectivement des Tutsis. Alors ils sont pas, je veux dire, il n'y a pas de carte d'identité ethnique, mais bon, en gros, je veux dire, les tueurs Hutus rwandais, quand ils sont, je veux dire, au Kivu, qui en plus était anciennement, autant la colonisation, qui a été à un moment donné une partie du Rwanda, eh ben, que font ces tueurs ? Eh ben, ils tuent les Tutsis congolais. Il y avait aussi des Tutsis rwandais réfugiés depuis fort longtemps. Il y avait aussi des Hutus congolais rwandophones. Donc, effectivement, s'ils parlent rwandais, c'est qu'ils sont Tutsis, il faut les liquider. Il y a aussi, un groupe qu'on appelle les Banyamulenge. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que l'origine des guerres au Congo, c'est, 30 000 au moins génocidaires qui viennent du Rwanda, qui s'installent au Congo et qui liquident les Tutsis. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que ces 30 000 génocidaires, ils menacent aussi le Rwanda. Donc, Paul Kagame, qui est chef militaire du FPR, avec ses troupes, interviennent à plusieurs reprises au Congo pour repousser aussi, cette haine raciale, pour se défendre. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, le mouvement, très objectivement, hein, le Congo, le Rwanda soutient, c'est-à-dire le M23, est là quand même pour globalement défendre ces populations menacées. Je veux dire, ils ne sont pas dans la haine ethnique. En revanche, les milices, les patriotes, les fameux patriotes, soutenus par le régime congolais, sont là pour tuer du Tutsi. Hein. Il suffit de lire les communiqués, et ils le font avec le soutien de ces anciens Hutus rwandais qui s'appellent les FDLR, hein, qui sont là. Donc, il faut rappeler quand même tous ces faits historiques pour comprendre aujourd'hui la situation du Congo et le fait que, la première cause des guerres du Congo actuellement, c'est cette présence de génocidaires rwandais Hutus au Kivu, donc à l'est du Congo.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Mmh. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin.
Stromae, l'enfant du pays au Rwanda, et cette chanson touchante, si elle vous met pas la larme à l'œil, en tout cas, c'est Papa Outé. Courte pause, et on se retrouve avec la deuxième partie d'Europa Voice, et cette fois-ci, nous parlerons de la gauche européenne. Qu'en est-il donc de cette gauche européenne au cœur de l'Union européenne et de la création européenne, tout de suite après ça. Deuxième partie d'Europa Voice, comme promis, je suis toujours avec Nathanaël Bloch. Ça va toujours ?
Ça va toujours, Christophe.
Alors là, cette fois-ci, on va parler de politique vraiment politicienne. On sait que les élections européennes arrivent, c'est tout début du mois de juin. On ne fera qu'en parler d'ailleurs d'ici à là, je pense, dans les prochains épisodes d'Europa Voice. Faisons un coup de projecteur aujourd'hui sur la gauche. Et oui, la gauche existe toujours au niveau européen. Et je fais pas de partisanisme là-dessus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait que la gauche s'est fait décimer, d'ailleurs comme une grosse partie de la droite, dans plein différents pays et pas simplement la France. Je suis pas que franco-français là-dessus. Par contre, la gauche a quand même son mot à dire dans cette élection européenne. D'ailleurs, faut peut-être définir qu'est-ce qu'est la gauche en elle-même, une gauche européenne.
Alors là, effectivement, Christophe, on fait une petite focale sur les socialistes européens.
D'accord.
Parce que historiquement, évidemment, en face du Parti populaire européen, on avait un parti socialiste européen assez fort, un peu à l'image de ce qu'on avait au niveau de chaque pays européen, une droite conservatrice classique face à une gauche plus ou moins réformatrice.
Qui était portée d'ailleurs en Espagne par les Podemos et toute cette la France insoumise en France, enfin cette gauche un peu plus
radicale.
Voilà, radicale. Je cherchais mon mot. Je voulais pas dire extrémiste, c'était radical le mot. Merci.
Non, mais donc la question de se poser, c'est est-ce que les gauches et les droites, là pour le coup un peu plus classiques dans les pays européens, vont réussir à, puisque les élections européennes se font, on vote quand même au niveau national. Donc la question, c'est de savoir est-ce que la gauche va réussir à se reconstruire assez au niveau national pour envoyer des députés au Parlement européen. C'est une question aussi qui se pose parce qu'on est dans un contexte au niveau européen, Christophe, où la droite, elle, pour l'instant, est toujours aux manettes avec Ursula von der Leyen, le Parti populaire européen, d'ailleurs souvent des alliances avec des mouvements plus... j'allais dire centriste comme Renew Europe. Comme
alors on parle de droite entre guillemets traditionnelle.
On parle
de droite traditionnelle.
On parle de la droite traditionnelle. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que la gauche va réussir à bousculer et faire que Ursula von der Leyen n'obtiendra pas un second mandat. Le Parti socialiste européen, Christophe, a décidé de se ranger derrière une personne assez inconnue du grand public, qui est Nicolas Schmitt. Donc c'est lui qui a été désigné par le Parti socialiste européen pour être tête de liste aux prochaines élections en juin prochain, si jamais effectivement les députés européens socialistes ont une majorité. C'est aussi lui qui est pressenti pour prendre la tête de la Commission. Ce qui est très intéressant, Christophe, c'est que le contexte est un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va pas être dans une opposition droite, gauche classique au niveau européen. On ne va même pas être dans une opposition, j'allais dire, comme Emmanuel Macron a créé ces conditions d'avoir une espèce d'alternative démocratique en France. Maintenant, il y a deux quinquennats de cela. On va être dans un contexte où l'extrême droite, on le sait, et les instituts de sondage l'ont tous calculé, il y a une vraie poussée de l'extrême droite au niveau de l'Union européenne. Et donc, la gauche doit à la fois se battre contre la legacy d'Ursula von der Leyen, mais aussi contre cette poussée de l'extrême droite, avec en périphérie des mouvements de gauche plus radicales.
J'allais dire avec en périphérie des mouvements de gauche beaucoup plus radicaux, justement.
Voilà, des mouvements de gauche qui sont portés, par exemple, en France, par la France insoumise, qui ne fait pas d'alliance avec le parti de Raphaël Glucksmann, par exemple.
Ouais, c'est compliqué en fait le rôle de cette gauche justement quand on met un coup de projecteur dessus, parce que si on fait juste une simplification des choses, la gauche est attaquée de toutes parts. Par sa gauche, par sa droite, par le centre, c'est une position qui est difficile au niveau européen, parce que c'est un peu le même récital dans chaque pays quand même.
Oui, en fait, dans chaque pays, Christophe, il y a des pays où les intentions de vote pour les listes de gauche augmentent. C'est par exemple le cas en France. On pense que les intentions de vote vont augmenter de près de 10% pour les socialistes au niveau européen. Mais il y a plein de pays, d'ailleurs des pays assez, j'allais dire, historiques, qui fournissent un grand nombre d'eurodéputés socialistes, où il y a un enjeu vraiment, où il y a un risque de voir ce nombre de députés socialistes européens envoyés au Parlement européen diminuer.
On parle de l'Espagne, on parle du Portugal.
On parle de tous ces pays qui historiquement ont envoyé des contingents de députés socialistes au niveau du Parti Socialiste Européen. On parle de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, des Pays-Bas. On parle même aussi de l'Allemagne. Dans tous ces pays-là, il y a un véritable enjeu et un challenge pour la gauche de se reconstruire et de continuer à être une force d'opposition au sein du Parlement européen. Et ça, c'est très important, parce que si les partis de gauche se sont un peu effondrés dans de nombreux pays européens, au niveau du Parlement, au niveau de l'Union européenne, pour l'instant, la gauche, qu'on peut appeler traditionnelle, a résisté.
C'est un peu la ligne rouge, si je peux me permettre.
Je ne sais pas si c'est le dernier espoir, mais c'est un petit peu...
La ligne de vie.
C'est la ligne de vie exactement pour cette gauche européenne qui doit continuer d'exister, parce que si elle n'existe ni au niveau national, ni au niveau européen, la nature ayant horreur du vide, ce sont d'autres mouvements. Donc on sait déjà que l'extrême droite, elle, va progresser, mais la question, c'est de savoir est-ce que les mouvements contestataires de gauche en France, par exemple, la France insoumise, vont continuer à grignoter cet électorat de gauche au Parlement européen. Et de manière un peu plus contradictoire, Christophe, et différente, c'est que la droite se porte mieux. La droite se porte mieux aussi parce qu'elle a fait plus d'alliances avec des partis centristes au niveau européen. Donc c'est un enjeu qui est spécifique à cette gauche en vue des élections européennes.
Oui, la gauche a toujours eu du mal avec son centre. Hein. On pense en France le PRG, qui était des partis centristes de gauche qui ont vraiment eu du mal à survivre, justement parce que les alliances étaient difficiles à trouver. Juste pour conclure cette idée de gauche en Europe, est-ce que quand même, quand on y réfléchit, l'Europe c'est une idée de gauche ? C'est une idée humaniste, c'est une idée qui est sur le papier vraiment de gauche. Est-ce que ça fait peur de penser que maintenant l'Europe pourrait être une idée de droite ? On parle donc de cette globalisation, on parle de tout ça. Est-ce que l'idée même de penser que l'Europe vraiment est dans une phase qui tourne de plus en plus à droite avec une perte de vitesse, peut-être potentiellement de la gauche européenne, pour l'avenir c'est un changement d'état d'esprit de ce que est et ce qu'était l'Europe à l'époque ?
Ce qui est intéressant c'est que et la gauche et la droite au niveau national, et notamment français, ont reproché à l'Europe, à l'Union européenne, tout et son contraire. Ça a été une espèce d'épouvantail à peur. C'est-à-dire qu'à la gauche...
Le bouc émissaire.
Ça a été un bouc émissaire. À gauche, on lui reprochait un ultra-libéralisme, alors qu'à droite, on lui reprochait de contrôler en fait tout ce qui allait se passer en France et d'être beaucoup trop... une espèce de machine à brimer les libertés. On reprochait aussi à droite, à l'Union européenne, d'être d'une espèce de... à une immigration illimitée, alors qu'à gauche, on lui reprochait de ne pas faire assez. Donc en fait, les deux parties ont reproché à l'Europe tout et son contraire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence quand même à voir depuis quelques années des positions beaucoup plus réalistes sur l'Union européenne. Et de tous les partis, Christophe, on peut prendre les extrêmes. Il y a 10 ans, Marine Le Pen, il fallait sortir de l'Union européenne, il fallait arrêter l'euro. Enfin, vraiment, voilà, on était dans démagogie puissance 10. Enfin,
le Brexit a quand même été un sacré coup de clim pour tout le monde. Hein. Soyons francs.
Oui, ça a été un coup de clim, mais c'est un...
Pour toutes les idées de sortir de l'Union européenne, je pense que la complication du projet a compliqué pas mal la rhétorique.
Ah bah, ça a été ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ça a été la douche froide pour Marine Le Pen et d'autres frexiteurs, de se dire c'est peut-être pas si mal en fait de continuer d'appartenir à l'Union européenne. Mais donc ce que je veux dire c'est que même au niveau des extrêmes, on a évolué sur cette question de l'Union européenne de manière réaliste. Pour la gauche, la question qui est portée en ce moment d'ailleurs par Raphaël Glucksmann, c'est pas la question évidemment d'appartenir ou pas à l'Union européenne, c'est la question de l'approfondissement. Il le dit dans ses meetings. C'est ce qui l'oppose d'ailleurs à la gauche de France Insoumise, à cette espèce de bataille par médias interposés qu'il a avec François Ruffin. C'est que pour François Ruffin, l'Union européenne est en train de rater un idéal de politique qu'il essaie de mettre en place. Pour Raphaël Glucksmann, la question c'est, on a un cadre qui est bon, mais il faut l'approfondir. Donc, je ne sais pas si c'est moins une question de gauche-droite qu'une question de trouver le bon angle et d'être face aux réalités que l'Union européenne peut apporter par rapport au parti dans lequel on se trouve. Et encore une fois, c'est vrai pour l'extrême droite avec cette évolution de la position de Marine Le Pen sur la sortie de l'euro et la sortie de l'Union européenne. C'est vrai pour la gauche classique. C'est vrai aussi pour la droite, d'une certaine façon. Le discours qui est porté en ce moment en France, en l'occurrence par François-Xavier Bellamy, est plutôt un discours sensé, qui est différent des discours des autres partis politiques, mais on n'en est pas à une sortie de l'Union européenne ou je ne sais quel est l'autre élément démagogique. Donc la question, elle est moins gauche-droite qu'une question de qu'est-ce qu'on fait de cette Europe-là.
Un vrai défi intellectuel pour la gauche.
Pour la gauche, c'est un défi intellectuel, mais c'est aussi, encore une fois, c'est cette ligne de vie. C'est encore le dernier espace, c'est un des derniers espaces de démocratie où la gauche peut s'exprimer et avoir un poids. C'est ça aussi qui est important. La gauche n'a plus de poids dans beaucoup de démocraties parlementaires en Union européenne, dans les pays de l'Union européenne. Elle a encore un poids au niveau de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle va en faire, cette gauche-là ?
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Antonelle.
Merci, Christophe.
Quand au fond du camp de la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table. No seas sabio ni obediente, como a menudo te piden. Sé justo, tenaz y sincero, sé solo tú, sé solo tú.
C'était Olivia Ruiz et sa chanson Le sel. Voilà, courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
L'Alliance française de Sydney organise ce mercredi 10 avril 2024 un philo bistrot sur Augustine Soubéran, l'une de ses fondatrices. Et justement, il y a un peu plus d'un an et demi, en septembre 2022, nous avions interviewé sa biographe Nelly Duré. En marge du philo bistrot, nous vous proposons donc de découvrir ou redécouvrir cette interview tournée, on le rappelle, il y a un peu plus d'un an et demi, c'était en septembre 2022. Et le philo bistrot, c'est donc le 10 avril à 18h15 dans les locaux de l'Alliance française de Sydney. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.afsydney.com.au/watson/philobistrot. Bonne écoute, messieurs, dames.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Augustine Soubéran, née en 1858 et décédée en 1933, l'une des fondatrices de l'Alliance française de Sydney. Pour parler de cette femme au destin hors du commun qui a beaucoup fait pour la communauté française ici en Australie, nous sommes en ligne avec l'écrivaine Nelly Duré qui a écrit sa biographie après une enquête sur son itinéraire. Nelly, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Elle a fondé l'Alliance française, elle a d'ailleurs été deux fois présidente en 1910 et ensuite en 1921 pour deux ans. Pour l'anecdote, sachez qu'il y a seulement six femmes qui ont été présidentes de l'Alliance française de Sydney. Augustine a reçu la Gold Medal par l'Alliance française de Paris en 1911. On sait également qu'elle a participé grandement à la reconstruction de la France depuis l'Australie après la Première Guerre mondiale. Ça a consisté en quoi concrètement ?
Alors imaginez-vous que cette femme extraordinaire va vendre son école avec Louisa. Elles vendent leurs écoles pour prendre une retraite bien méritée. Et quand, à quelle date vendent-elles leur école ? Imaginez-vous. Juin 1914. Donc, aucun repos possible. Pour elle, la France va être envahie, il faut repartir au front. Et elle va monter avec un trio de choc de femmes, Marie-Thérèse Pliouste, Augustine Soubéran et Louisa Garnet, vont monter la Ligue la help, c'est ça, je le dis bien, League Help of Australia.
C'est parfait.
Franco-australienne. Oui. La Ligue d'entraide franco-australienne. Voilà. Donc, une ligue qui va lever un trésor de guerre extraordinaire. Alors, Augustine commence par faire des manifestations pour récolter de l'argent. Alors, par exemple, dans la Town Hall à Sydney, elle monte un spectacle avec des jeunes filles de Kambala. Et puis, elle vend les drapeaux des nations emportées dans la guerre aux enchères. Et puis, elle a des tas d'idées. Et puis, elle va monter des ateliers pour faire tricoter des pulls verts avec la laine australienne, des chaussettes à quatre aiguilles, attention, et puis des chemises, et puis, alors elle fait des paquets, elle met des petits mots dans les paquets, tricotés par vos amis, etc. Et elle envoie tout ça en France pour que ce soit distribué aux poilus, aux soldats dans les tranchées. Alors, très vite, ça devient ingérable, donc Marie-Thérèse Pleyel-Huyst, qui était présidente, part à Paris et reçoit à Paris les colis faits qui partent d'Australie. Alors, elle écrit à notre amie Augustine, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela, et Augustine entreprend de servir la cause et d'envoyer ce dont on a besoin et de vraiment être au service de Marie-Thérèse qui lui inscrit un plan de campagne. Voilà. Donc, elle continue à faire tricoter, à envoyer des colis, mais elle lève des fonds. Et cette levée des fonds, avec des causeries qu'elle fait à droite, à gauche, elle remue ciel et terre, et elle lève un trésor de guerre qu'elle va envoyer en France, et elle ne l'envoie pas, en fait. Elle va le ramener en France, elle. Et donc, elle arrive en 1917 en France. Et évidemment, elle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant le poilu dans sa tranchée que les veuves de guerre et les enfants. Parce que son cœur saigne. La veuve de guerre, elle n'a rien pour vivre et l'enfant non plus. Donc, elle monte deux orphelinats avec la Ligue d'entraide franco-australienne et ces orphelinats, évidemment, vont être de suite remplis. Et puis, elle va s'entremettre avec des députés, elle va lier connaissance, et en particulier avec l'un, c'est Albert Mettin, qui est député du Doubs, et qui est donc adjoint au blocus. Et ce député, qui a une place extrêmement importante, avec Augustine, a de suite un contact, parce que lui est un homme qui est géographe, qui a voyagé en Australie, qui adore l'Australie, et de suite, ils mettent sur pied comme un plan Erasmus d'échange avec des étudiants qui seront mis en place après la guerre. Et puis, il continue son travail et décide de mettre sur pied une grande mission diplomatique qu'on appellera mission du général Pau. Et cette mission diplomatique comprend des agriculteurs, des économistes, des militaires, 16 hommes qui sont des références et des lainiers, bien entendu, des économistes et spécialistes de la laine. Et cette mission ne comprend qu'une femme, Augustine Soubéran, pédagogue, et elle va partir donc en juillet 1918 de France. Elle rejoint l'Angleterre où elle est reçue par le premier ministre anglais le 14 juillet, puis elle traverse l'Atlantique, arrive à New York, où elle est encore reçue avec enthousiasme, et cette mission à l'aval de Clémenceau, l'homme politique fort du gouvernement français. Elle traverse les États-Unis en train, elle arrive à San Francisco. Et à San Francisco, le chef de la mission, c'est-à-dire Albert Mettin, cet homme politique, décède brutalement. Elle est reprise immédiatement par le général Pau, qui avait perdu un bras pendant la guerre de 1870. Et elle arrive avec une espèce d'enthousiasme délirant à Sydney sur un bateau, le Sonoma. Et cette arrivée est saluée par la population avec vraiment des débordements de joie. Et immédiatement, ce sont des visites de l'Australie qui commencent. Et le général Pau et Augustine Soubéran vont faire des séries de causeries. Lui, le général, raconte la façon dont les soldats australiens se battent avec un courage extraordinaire dans les tranchées. Et donc, il rend hommage à ces diggers, ces soldats qui soutiennent et qui vont d'ailleurs en juillet 1918 bloquer l'armée allemande. Et c'est la fameuse histoire de la ferme de Mouquet, les Villers bretonneux, etc. Des victoires australiennes phénoménales. Et elle, Augustine, parle aux mamans, aux mères qui perdent leurs enfants sur le sol français. Elle s'adresse à, et elle parle des veuves françaises, des orphelins français. Et il y a un moment d'émotion intense par la parole de cette femme. Et l'argent qui est levé, le trésor de guerre qui est levé par le général Pau et Augustine, c'est absolument extraordinaire. Et donc, Augustine revient en France pour rapporter cet argent à ses frais. Et elle va loger en France, toujours à ses frais. Et elle va se mettre à visiter les régions dévastées, parce que nous sommes à ce moment-là en 1919. Et en 1919, elle fait les visites de ces villages, dont un village Poilcourt. Alors, quand je dis dévasté, il faut bien imaginer que la guerre n'est pas une guerre de mouvement, c'est une guerre de tranchées. Donc, deux armées se sont enterrées face à face. Et c'est l'engagement à la baïonnette, la sortie de la tranchée, pour gagner 4 kilomètres, en repère de 5, en regagner 7. Et ceci pendant 4 années. Les Allemands ne passeront pas. À Verdun, vous avez ce colosse qui regarde l'Allemagne et qui dit « Vous ne passerez pas ». C'est la statue de Verdun. Les Allemands ne sont pas passés. La France n'a pas été envahie grâce au courage des Australiens, évidemment, des Anglais, des Américains, bien sûr, et des Français qui, depuis 1914, bloquent. C'est le hachoir. Les hommes sont hachés dans une guerre sans nom. Et pour nous, Cévenols, c'est la fin de la Cévenne, parce que c'est toutes les campagnes, la fine fleur des hommes, des campagnes qui sont morts, explosés sous les sols, sous les cieux plombés de Verdun, c'est absolument effroyable. Et donc, c'est 1 400 000 morts pour la France, 1 400 000 jeunes qui ne feront pas de foyer. Et pour la France, on paie toujours cette guerre actuellement. Donc, elle voit ces villages, le village de Poilcourt a été pris, repris, français, allemand, 7 fois. Il reste, c'est un village en ruine. Et pour le remonter, il faut non seulement remonter les ruines, mais il faut des troupeaux, il faut des tracteurs, il faut redonner une vie à ce village, refaire l'école, refaire... Et alors, elle a l'idée de le jumeler avec Sydney. Et elle jumelle la ville de Poilcourt, le village de Poilcourt, avec Sydney.
Merci beaucoup, Nelly. Je rappelle, vous êtes écrivaine, auteure de l'ouvrage Augustine Soubéran, une sénévole et philanthrope féministe en Australie, paru aux éditions Ampelos. Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir à vous tous.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Sous la peau comme une enclume, parfois on me dévisage, on me salit le paysage, mais je m'assume comme toi. Je peux être rage ou me faire sage comme une image sensuelle, charnelle, tandem vert ou laine, fauve maternelle. Tout dépend de mes choix. Toi tu me dis que je suis lune, mais je suis lune. Soleil libre d'être lune comme l'autre, car je suis lune et soleil.
Et c'était Zaz, l'une ou l'autre, pour conclure notre programme aujourd'hui.
<t'->
Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS, c'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet à tout instant, sbs.com.au/french. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.